CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.
Bonjour et bienvenue dans Les Souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies en partenariat avec la cyberbase de la MJC de Rodez. Cette semaine, l'actualité des nouvelles technologies, nous allons parler de la triste nouvelle de la semaine dernière, la mort du célèbre patron de la firme à la pomme, Apple. Nous allons parler ensuite d'Internet, de filtrage, filtrage Internet, Adopi et tout ce qui s'en suit. Nous allons enchaîner avec le rachat de Yahoo par Microsoft. De plus en plus, Microsoft lorgne sur le moteur de recherche plus que célèbre. Puis nous parlerons de Flickr. Alors je ne sais pas si vous connaissez Flickr, mais on va en parler. Puis après, on verra Wikipédia. On reviendra sur Apple avec la sortie de l'iPhone 4S. Puis ensuite, de l'anonymat, des sciences numériques. Pour l'actualité, ça devrait être pas mal, je pense. Donc ensuite, on va faire un petit sujet sur les données libres. On en a parlé la semaine dernière quand on vous a dit que pour les élections sénatoriales, ils avaient ouvert les données sur l'extérieur. Donc on va en revenir plus en profondeur pour voir ce que c'est et on enchaînera sur les licences libres et qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Et tout de suite, avant de commencer, une musique, Gaëtan Roussel, Inside Outside. Inside Outside, somebody's coming back. De retour à Les Souris ne mordent pas, l'émission Nouvelles Technologies en CFM. Nous sommes là pour l'actualité de la semaine et nous allons commencer par une bien triste nouvelle, mais autant commencer par les tristes nouvelles. La semaine dernière, nous avons appris la mort du patron d'Apple, de l'ex-patron d'Apple, puisqu'il avait démissionné. Steve Jobs nous a quittés. Alors c'est vrai que on s'y attendait plus ou moins parce que il allait vraiment pas très bien. Il avait démissionné de son poste de patron d'Apple cet été. Il était atteint d'un cancer du pancréas qui empirait de plus en plus. Malheureusement, ça devait arriver. Alors, c'est une triste nouvelle pour le monde de l'informatique. C'est une bien triste nouvelle pour tous les possesseurs d'iPhone qui comptaient sur l'esprit visionnaire de Steve Jobs pour l'amélioration des appareils. Espérons une seule chose, c'est que les successeurs fassent aussi bien que Steve Jobs. Alors, tous les spécialistes en parlent, s'interrogent sur la question. Il est vrai que Steve Jobs était quelqu'un de visionnaire et qu'il avait la possibilité de voir avant tout le monde ce qui allait marcher ou pas. Affaire à suivre, est-ce que les iPhones vont garder leur avance technologique par rapport au reste? On verra ça peut-être dans les prochaines émissions. Ensuite, nous allons parler d'Internet et malheureusement, d'une bien triste nouvelle encore, le filtrage d'Internet. Alors, RSF, je sais pas si vous connaissez RSF, c'est Reporters sans frontières, qui fait régulièrement des analyses de la liberté de la presse et de la liberté de l'expression en général. RSF a rendu un rapport assez récemment qui estime que le filtrage d'Internet gagne du terrain en France. Alors, on parle beaucoup du filtrage d'Internet en Chine ou dans les pays en dictature, mais on se rend pas bien compte de ce que ça peut donner en France. On se rend compte que le filtrage d'Internet gagne du terrain et que on essaye petit à petit d'étendre le blocage des sites qui dérangent. Alors, c'est vrai que quand on parle de sites pédopornographiques, ça nous dérange pas forcément parce que c'est bien, il faut le faire. Mais par contre, quand on se donne la possibilité pour un site pédopornographique de le bloquer sans passer par un juge, par exemple, on peut se demander pourquoi ça ne servirait pas finalement pour un autre site internet qui dérange le pouvoir. Donc voilà, à surveiller, il faut défendre Internet, la liberté d'Internet. Il faut aider RSF dans son combat de la liberté d'expression. Alors ensuite, c'est pas très très joyeux ce matin, mais on va parler d'Adopi. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Adopi, au moins une fois. Adopi, c'est la loi qui est passée et qui permet de couper une connexion Internet en cas de téléchargement illégal d'œuvres, en général, hein, que ce soit des musiques ou des films. Alors, Adopi, ça a mis du temps à se lancer. Au début, ils envoyaient des mails, donc finalement, ça nous faisait bien rigoler. Mais voilà, Adopi vient d'envoyer son premier dossier au juge pour demander la coupure d'une connexion Internet. Donc là encore, on s'interroge sur la possibilité de couper une famille d'Internet juste parce que quelqu'un aurait téléchargé de la musique ou des films illégalement. Donc voilà, Adopi est à suivre. Bientôt les présidentielles en 2012. Et certains candidats sont pour, d'autres sont contre, donc pourquoi pas, peut-être que ça va changer d'ici pas longtemps. Ensuite, nous allons parler de Microsoft et de Yahoo. Donc comme je vous l'ai dit en titre, Microsoft lorgne depuis assez longtemps sur le moteur de recherche Yahoo. On a vu assez récemment qu'il parlait d'une fusion entre le moteur de recherche Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, et le moteur de recherche de Yahoo. Donc voilà, Microsoft avait déjà tenté de racheter Yahoo en 2008, les négociations avaient échoué. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Ça c'est difficile à dire, un seul le temps nous le dira. Mais par contre, c'est vrai que de fusionner tous ces moteurs de recherche, c'est pas forcément très bon pour l'avenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% des gens passent par un moteur de recherche pour trouver un site. Et que donc ça donne beaucoup de pouvoir à ces moteurs de recherche. Suite aux rumeurs de rachat par Microsoft, il faut savoir quand même que l'action de Yahoo a gagné 10% en bourse. Elle est passée de $15 à $25 l'action. Donc ce n'est pas rien. Ça revient quand même à racheter Yahoo pour $20 milliards. Pour un simple moteur de recherche, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'enjeux derrière. Il faut savoir que c'est vrai que le moteur de recherche de Microsoft Bing a toujours eu du mal à décoller, car Google est quand même très puissant dans le domaine et Yahoo est aussi pas loin derrière. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent pour la publicité et c'est quand même très très important. Avant de continuer le reste de l'actualité, nous allons passer un second morceau, Zaz, le long de la route.
chanceler. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. Sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. Que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Confirmer. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai froid et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Devrait rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laisser vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves. C'est con peut-être con à se cacher de soi-même. C'est con peut-être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert.
Toujours ensemble dans les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies avec la cybermasse de Rodez de la MJC. Ensemble, nous allons continuer l'actualité de la semaine, toujours en parlant de liberté ou non. Un petit chiffre pour commencer, 200 millions. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que 200 millions ? Alors, 200 millions, c'est le chiffre publié par Flickr du nombre de photos sous licence libre qu'ils hébergent. Donc voilà, alors on va parler après des licences libres, hein, donc je rentre pas trop dans le sujet. Il faut savoir que Flickr héberge actuellement 6 milliards de photographies. Et que parmi ces 6 milliards de photographies, 200 millions sont sous licence libre. Voilà. Alors Flickr, vous connaissez peut-être pas. Flickr, c'est une immense banque de photographies que l'on trouve sur Internet où vous pouvez vous-même vous inscrire et héberger gratuitement vos photos. Et vous pouvez, tant que vous y êtes, les mettre sous licence libre, c'est-à-dire permettre à d'autres personnes de les publier ailleurs, en vous citant comme auteur, bien sûr. Mais voilà, ça permet à d'autres personnes d'utiliser vos photos. Donc si vous êtes parti en vacances dans un coin reculé où on ne trouve pas beaucoup de photos, ça peut vous permettre de faire diffuser vos photos très largement. Ensuite, donc nous allons parler d'un autre format de données libres, donc c'est Wikipédia. Donc vous connaissez sûrement Wikipédia, l'immense encyclopédie libre et gratuite. Wikipédia vient de lancer une grande levée de fonds parce que Wikipédia c'est gratuit et qu'il leur faut bien de l'argent pour vivre. Donc, alors c'est toujours compliqué ces levées de fonds parce qu'effectivement les gens se disent mais Wikipédia c'est gratuit, alors pourquoi ils lèvent des fonds ? Alors il faut savoir que c'est quand même immense Wikipédia. Il n'y a pas d'ailleurs que Wikipédia, hein, la fondation qui aux États-Unis s'appelle Wikimedia et qui héberge aussi beaucoup d'autres projets. et que ces projets, bah, ça nécessite des machines, ça nécessite des serveurs et ça nécessite des gens pour utiliser ces serveurs. Donc chaque année, Wikimedia lance une levée de fonds pour éviter justement d'avoir à faire payer ses utilisateurs ou pour éviter d'avoir à mettre de la publicité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur Wikipédia, il n'y a aucune publicité. C'est quand même à noter aujourd'hui où on voit de la publicité ciblée partout. C'est quand même important. Donc voilà, ils ont lancé leur levée de fonds. Il faut savoir qu'en 2009, ils avaient récolté 6,2 millions de dollars sur la levée de fonds. C'est grosso modo ce qu'il leur faut pour fonctionner pendant un an. Hein, donc c'est quand même assez important. À noter, là, Wikimedia vient de recevoir d'une fondation une donation de 3,5 millions de dollars. Donc c'est quand même une très grosse donation. Voilà, donc c'est à souligner. Merci à cette fondation et puis merci aussi à tous les petits donateurs, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de donner 3,5 millions de dollars. Vous pouvez ne serait-ce donner que 10 euros ou 5 euros. C'est déjà magnifique pour eux si tout le monde venait à donner cette petite somme. Puisqu'on parle de Wikipédia, nous allons parler par contre d'un petit problème qui a eu lieu en Italie la semaine dernière. Donc Wikipédia italien a été fermé par ses utilisateurs pour dénoncer une loi du gouvernement italien qui est passée. Je vais pas essayer de vous expliquer cette loi qui est un peu complexe, mais pour faire court, cette loi imposait à tous les sites internet italiens de modifier un site, modifier un texte concernant une personne et de ne pas spécifier qu'il a été modifié sur la demande de cette personne. Donc je prends l'exemple de Wikipédia, vous avez la biographie d'un auteur ou d'un politique ou d'un musicien italien qui n'aime pas trop ce qui a été mis sur sa fiche et qui demande simplement à la justice de le faire modifier. Et Wikipédia aurait été obligé de le modifier sans le signaler. Donc c'est pas très cool de la part du gouvernement italien, parce que c'est vrai qu'en France, on a ce genre de loi, mais en général, c'est bien marqué que suite à une décision de justice, ça a été modifié, etc., etc. Il faut savoir que c'est quand même très important Wikipédia et que pour qu'ils en viennent à fermer complètement l'encyclopédie, c'est que ça les touche vraiment. Donc voilà, je pense qu'il faut défendre aussi cette liberté, on en parlait tout à l'heure, c'est assez important. Allez, pour continuer, on va revenir un peu sur Apple, parce que on en a parlé en début, pour ceux qui étaient là. Donc la semaine dernière, on a vu la sortie de l'iPhone 4S. Alors là, je vous dis pas, tous les fans d'Apple ont été déçus parce que tout le monde attendait l'iPhone 5. Et non, c'est l'iPhone 4S qui est sorti. Alors l'iPhone 4S, on n'en sait pas trop grand-chose encore, mais voilà, on sait qu'il sera vendu 629 euros. Nu, donc sans aide d'opérateur. Une grosse déception. Alors on ne sait pas quand est reporté l'iPhone 5. Bientôt, j'espère. Donc voilà, l'iPhone 4S est une nouvelle révolution, comme tous les produits Apple qui sont sortis. Alors puisqu'on parle d'iPhone, on va parler d'un chiffre qui est sorti cette semaine et qui nous montre que les smartphones sont en passe de dépasser les téléphones portables en France. Alors c'est vrai qu'on voit des iPhones partout. Donc du coup, on se disait, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans la poche. Et non, il faut savoir que les téléphones portables étaient encore majoritaires, mais que plus pour longtemps, puisque les smartphones sont en passe de les dépasser. Dernière actualité, on va parler d'anonymat. D'anonymat dans les cybercafés. Alors il faut savoir que les députés français se battent depuis longtemps pour essayer de supprimer l'anonymat. Alors, pas tous les députés, hein, je vous rassure, certains députés. Ils ont essayé d'abord de supprimer l'anonymat sur les sites internet. Maintenant, ils essayent de supprimer l'anonymat dans les cybercafés. Donc, encore une fois, c'est pas pour être anonyme ou pas, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, mais pourquoi les gens tiennent tellement à être anonymes? C'est aussi pour la liberté, hein, parce que bientôt, on va devoir aller sur internet avec une carte à puce et que si ça continue, les députés pourront savoir quel site on a visité, combien de temps on y est resté. Donc voilà, hein, force de, on parle beaucoup de liberté ce matin. Donc voilà, il faut savoir que c'est un député Jean-Louis Christ. Voilà, donc je citerai pas de parti, mais je vous laisserai chercher qui est Jean-Louis Christ, qui s'interroge sur le développement de la cybercriminalité anonyme. C'est des très très grands mots. Heureusement, hein, toutes les personnes allant dans les cybercafés ne sont pas des cyberterroristes. On le répète encore une fois, hein, il faut faire attention. Alors, c'est vrai qu'on a eu ces dernières années, c'est vrai, on va dire ces deux dernières années, beaucoup d'attaques sur la liberté d'Internet, hein, que ce soit Adopi, que ce soit la loi numérique, que ce soit maintenant ces histoires d'anonymat dans les cybercafés. Donc, défendons ça. Une actu un peu militante ce matin. Allez, une petite dernière avant de continuer. C'est une bonne nouvelle. Les sciences du numérique rentrent au lycée. Alors, ça vous étonne peut-être. Il faut savoir que les écoliers et les collégiens avaient leur petite séance de numérique avec le B2I, le C2I qu'ils passaient. Hein, ce sont des petits diplômes où ils apprenaient à se servir d'un ordinateur. Et donc là, à partir de septembre 2012, on verra dans certains lycées apparaître une option appelée informatique et sciences du numérique, où les étudiants pourront découvrir l'information numérique, l'algorithme, les langages de programmation et les architectures matérielles. C'est une petite avancée et ça donnera peut-être le goût à certains de se lancer dans l'informatique plus tard. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Donc nous allons passer maintenant à notre dossier sur les données libres, les licences libres. Mais avant tout ça, une musique en CFM. C'était Daphné Ouvali-Laclaine dans les Souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies en partenariat avec la cyberbase de Rodez de la MJC. Nous allons entamer maintenant, après l'actualité, notre gros dossier de la semaine. Nous allons parler des données libres, des licences libres. Alors, je sais, vous allez me dire, on est beaucoup dans la liberté depuis le début de l'émission, mais on fait la thématique, c'est la liberté, donc on continue. Nous vous avons parlé la semaine dernière du Sénat qui ouvrait les résultats de ses élections sénatoriales en open data. Donc vous avez dû vous demander toute la semaine ce que c'était. Donc on va répondre à cette question. Puis après, on parlera des licences libres. On verra comment, si vous êtes artiste, si vous produisez des choses aussi, comment les rendre libre d'accès aux gens. Tout de, avant de commencer, on va casser une idée reçue. Libre ne veut pas dire gratuit. Il faut savoir qu'une donnée libre n'est pas forcément gratuite et qu'une donnée gratuite n'est pas forcément libre. Voilà. Quand on parle de données libres, on s'adresse à une licence, c'est-à-dire que on autorise simplement des gens à utiliser librement des données. Donc voilà, ça peut être, je fais une photo, je vends cette photo à un magazine et j'autorise ce magazine à utiliser librement la photo que j'aurais vendue. C'est-à-dire qu'après, ils en font, une fois qu'ils l'ont achetée, ils en font ce qu'ils en veulent. Je peux aussi leur donner la photo et les autoriser à faire ce qu'ils veulent de la photo. Par contre, je peux très bien leur donner la photo et leur dire, mais attention, je vous donne la photo, mais c'est que pour publier dans ce magazine précis. Là, voilà. Là, on est dans une donnée gratuite, mais qui n'est plus libre. Donc, l'open data, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nous avons des administrations en France qui stockent énormément de données. Ils récupèrent énormément de données, que ce soit sur la hauteur des trottoirs, sur la composition des routes, sur l'enregistrement à l'état civil des bébés qui naissent, sur les mobiliers urbains, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, ces données étaient stockées par les administrations et on n'y avait pas accès ou difficilement, et donc on ne pouvait rien en faire. Ce qui est assez dommage puisque le stockage de ces données est quand même payé par nos impôts. Et que si l'administration n'en fait rien, d'autres pourraient en faire beaucoup de choses. Des exemples tout simples de données qui ont été ouvertes depuis longtemps, la météo. On s'en rend pas compte, mais Météo France, depuis très longtemps, ouvre ces données météo à d'autres sociétés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve des données météo ou que à la télé ou à la radio, les gens peuvent faire la météo. En général, ils achètent ces données à Météo France et Météo France leur donne l'accès à toutes les données météo et c'est après à eux de le traiter et d'en parler. Voilà, c'est un exemple très très simple hein, de données ouvertes. Donc, vous allez dire, à quoi ça peut servir d'autre ? Je prends l'exemple du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'ouverture des données a permis, par exemple, la création d'un site qui s'appelle nosdéputés.fr. Qui regroupe en fait toute l'activité parlementaire des députés et qui vous permet par exemple en allant sur nosdéputés.fr de choisir le député de votre circonscription et de savoir combien de fois il est intervenu en séance, combien de questions il a posées, combien de lois il a écrites et tout ça. Ils ont ouvert récemment la même chose pour le Sénat, ça s'appelle nosénateurs.fr. Voilà, c'est un exemple de données ouvertes. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur les données ouvertes, il y a la commune de Paris, qui est très en avance sur le sujet, et qui a ouvert un site internet qui s'appelle opendata.paris.fr, et sur lequel elle recense, en fait, toutes les données qu'ils ouvrent au public. Donc, je prends l'exemple de la hauteur des trottoirs dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut vous paraître comme ça, vous qui êtes derrière la radio ou au volant de votre voiture un peu bizarre. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de récupérer la hauteur des trottoirs hein? Ça pourrait servir, par exemple, à une entreprise de fabriquer une application pour un smartphone permettant aux personnes en fauteuil roulant de savoir quel est le meilleur trajet pour eux. Voilà, puisque les données de la hauteur des trottoirs partout dans Paris est connu, l'application peut très bien calculer quel est le meilleur parcours pour un fauteuil roulant, par exemple, d'aller d'un point A à un point B. Autre exemple de données, l'état civil. Alors, l'état civil, je vous rassure, hein, on donne pas vos noms, prénoms, date de naissance à tout le monde, mais par contre, on peut donner la liste des prénoms. Une commune peut très bien ouvrir à tout le monde la liste de tous les prénoms qu'elle a enregistrés durant à l'état civil, et ça peut permettre aussi de faire des statistiques, de savoir quel est le meilleur prénom du moment, quels sont les prénoms qui ont disparu. Voilà, ça peut aider les futurs parents à choisir le prénom de leurs enfants. Voilà, si vous voulez pas un prénom comme tout le monde, ça vous permet d'éviter les prénoms un peu trop populaires. Voilà, donc ça c'est l'open data. Alors, il faut savoir qu'on en est qu'au début de l'ouverture des données. Que c'est assez complexe. Parce que je prends l'exemple du Sénat qui a ouvert ses données récemment et qui freine encore sur la licence, parce que il faut vraiment lire la licence qu'il propose avec pour voir effectivement que tout n'est pas ouvert et qu'il se réserve le droit de changer à tout moment l'ouverture ou non de ces données. Donc pareil, on parlait de liberté, ben voilà, il faut se battre aussi, et n'hésitez pas à écrire à vos élus, à votre commune, pour les inciter à ouvrir les données qu'ils enregistrent, voilà. Même si vous, personnellement, vous ne vous en servez pas, il faut savoir que bah ça peut servir à une société pour créer une application pour un smartphone, par exemple, pour vous aider dans le quotidien. Avoir une application, par exemple, qui vous donne le banc le plus proche quand vous en avez marre de marcher et que vous voulez vous asseoir. Plutôt que de chercher un banc, hop, vous pouvez avoir une application qui vous donne le banc le plus proche. Ou alors la poubelle la plus proche, ça vous évitera de jeter les papiers par terre. Comme ça, vous savez, hop, tout de suite, où est la poubelle la plus proche. Bah, tout ça, ça ne se fait pas par magie. Vous n'avez pas des personnes qui partent dans les rues, regarder où sont les poubelles, où sont les bancs, hein, parce que ce serait un peu trop compliqué. Voilà, tout ça se fait grâce aux données ouvertes. Donc il faut absolument, je lance une révolution, je demande à tous les auditeurs de la radio d'écrire à leurs élus pour leur demander d'ouvrir les données, c'est assez important. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que ça a un impact économique assez important, parce que la libération des données publiques diviserait par 5 le capital nécessaire pour exercer une activité professionnelle dans le secteur de la téléphonie mobile. Très clairement, hein, ça peut aider pas mal de sociétés, et ces sociétés pourraient sortir des choses qui peuvent nous aider et qu'ils n'auraient pas les moyens de sortir s'ils n'avaient pas accès à ces données, quoi. Voilà, alors on va tout de suite passer une petite musique et on se retrouve après pour continuer sur la thématique des licences libres et des données libres.
D'autres filles entrent dans la danse. Et doucement tu m'as.
De retour, hein, les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle de nouvelles technologies. Donc on vient d'écouter Cœur de Pirate pour un infidèle. Donc nous allons continuer avec la dernière partie de l'émission sur la liberté. En général, hein, on a commencé par parler un peu de liberté, là on va aller à la liberté en général. Donc on vous a parlé d'open data à l'instant. Maintenant on va, parce que c'est bien beau de demander à tous les élus d'ouvrir ces données publiques à tout le monde, mais il faut savoir que vous aussi, vous pouvez ouvrir vos travaux à l'extérieur. On va parler de licences libres. Donc, qu'est-ce que les licences libres ? Alors, je vous rassure, hein, les licences libres, ce n'est pas le vol de votre travail. Il faut savoir que... alors, je vais faire un peu académique. Et je vais essayer de pas me tromper pour ne pas me faire lyncher par tous les partisans du libre en France. Les licences libres se résument en quatre possibilités. La possibilité d'utiliser une œuvre, la possibilité d'étudier une œuvre, la possibilité de redistribuer l'œuvre et la possibilité de modifier l'œuvre. Donc clairement, quand vous ouvrez une œuvre sous licence libre, donc je sais pas, vous êtes photographe, vous avez fait des photos... vous ouvrez ces photos. Vous choisissez en fait parmi ces quatre propositions, parmi ces quatre possibilités, lesquelles vous allez donner aux personnes. Donc vous pouvez simplement autoriser les personnes à utiliser vos photos dans des magazines, sur des sites internet. Les personnes auront la possibilité d'utiliser l'œuvre en citant l'auteur, bien sûr. Vous pouvez restreindre cette utilisation à une utilisation non commerciale, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, moi j'ai fait une œuvre, je permets à toutes les personnes qui ont un but non commercial d'utiliser l'œuvre, et puis si vous utilisez l'œuvre pour faire de l'argent, par contre vous me rétribuez mon travail. Ça peut être une solution. C'est une solution par exemple qui est beaucoup utilisée dans la musique. De petits auteurs, chanteurs, musiciens, interprètes qui veulent se faire connaître en fait, distribuent leur œuvre gratuitement, permettent à toutes les personnes d'écouter l'œuvre. Par contre, si l'œuvre vient être à utiliser dans un CD ou en radio ou autre, par contre, il faut rémunérer le travail de l'auteur. Ensuite, vous pouvez permettre à la personne d'étudier l'œuvre. Donc ça, c'est pas trop pour la musique, mais dans certains cas de recherche ou de choses comme ça, ça peut être utilisé. Vous avez la possibilité de redistribuer, donc c'est simplement vous autorisez la personne à distribuer votre œuvre. Donc en général, ça va avec l'utilisation. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier l'œuvre. Donc vous autorisez les personnes à modifier votre œuvre. Alors ça, c'est beaucoup utilisé dans l'informatique, dans les logiciels par exemple. Je prends le cas des logiciels libres. En général, on autorise les personnes à améliorer le logiciel. C'est-à-dire que on a son petit logiciel qu'on a fait dans son coin, qui est pas parfait, hein, parce que comme tout le logiciel, c'est pas parfait. Et on se dit que sans cerveau valent mieux qu'un. Donc voilà, on permet aux autres de modifier son logiciel. Et à la fin, tous les auteurs seront cités dans les licences du logiciel. Donc vous n'êtes pas dépossédé de votre création. Et ça vous permet aussi par la suite de récupérer cette œuvre et pourquoi pas de la vendre. Ça, vous avez le droit. Donc ça, c'est les licences libres. Donc il faut savoir que les licences... Aujourd'hui, l'informatique ne serait pas ce qu'elle est sans les licences libres. Parce que je prends Wikipédia, par exemple. Personne au monde n'est capable de financer la création de Wikipédia. Je vous ai parlé tout à l'heure effectivement qu'il faisait une levée de fonds chaque année, mais il faut savoir que la levée de fonds ne permet que de payer les serveurs qui permettent d'afficher le site. Tout ce qui est mis sur Wikipédia est mis bénévolement. Et aujourd'hui, si on valorisait le contenu de Wikipédia, ça vaudrait des milliards et des milliards de dollars. Parce que ça dépasse toutes les encyclopédies qui existent, quoi. Aucune encyclopédie n'est capable de faire ce que fait Wikipédia. Et voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on voit des sociétés qui utilisent le contenu de Wikipédia pour le sortir en encyclopédie. Et donc du coup, ils vendent l'encyclopédie, ils vendent en fait l'impression sur papier ou alors sur CD. Voilà, donc c'est grâce à ce travail que ça permet de diffuser le savoir. Voilà. D'ailleurs, j'encourage tout le monde qui écoute la radio à contribuer sur Wikipédia. Il faut savoir que n'importe qui, si vous tombez sur une page Wikipédia et que vous constatez une faute, quelque chose qui soit erroné, ne vous contentez pas de dire Wikipédia, tout est faux, c'est nul. Voilà. Il faut corriger. Hein. Tout le monde met la main à la pâte. C'est bête à dire, mais tout le monde est bénévole et voilà. Si vous constatez une faute, tac, vous cliquez sur modifier, vous modifiez la faute et c'est fait. Hein, ça vous a pris 10 secondes. Et ça permet de corriger la faute. Alors, Wikipédia ne prétend pas tout savoir, ne prétend pas posséder le savoir. Hein. Il faut savoir que ce qui est sur Wikipédia, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Voilà, donc vous pouvez très bien modifier Wikipédia, et voilà, ça ne fera que améliorer l'encyclopédie. Alors, il faut savoir que pour un petit peu de culture générale, les licences libres sont gérées par une organisation à but non lucratif qui s'appelle Creative Commons. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de Creative Commons. Oui, non. Donc, Creative Commons, voilà, parce que il fallait encadrer la chose. Et donc, c'est comme pour Wikipédia qui se repose sur une fondation. Les licences libres reposent sur une organisation à but non lucratif, hein, donc ils sont pas là pour faire de l'argent, qui s'appelle donc Creative Commons, qui a un président, qui a des membres dans chaque pays, qui défendent le Creative Commons et qui surtout en font la promotion. Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'aller voir les gens et de leur dire « mais c'est bien, il faut faire du contenu en Creative Commons ». C'est important. Alors, je prends l'exemple d'un essai économique, par exemple, hein, quelqu'un qui écrirait un livre sur l'économie. Il peut très bien vendre ce livre et l'ouvrir ensuite en Creative Commons pour permettre aux gens d'utiliser les recherches qu'il a pu faire et ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, si jamais vous voulez des informations, n'hésitez pas, hein, vous allez sur un moteur de recherche. Vous tapez Creative Commons, vous allez trouver énormément d'informations dessus. Et surtout, alors je vais pas vous donner toutes les licences Creative Commons parce qu'on en aurait pour la nuit. Mais voilà, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait vous avez dans la licence Creative Commons 4 sigles, un qui vous permet de définir l'attribution, un qui vous permet de définir l'usage commercial ou pas. Un qui vous permet de définir si vous avez le droit ou pas de modifier l'œuvre, et un qui vous permet de savoir si l'œuvre doit être partagée ou pas. Voilà, on en revient aux 4 fondements du livre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on a fait le tour, hein, je pense, de la liberté sur Internet pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner, on y reviendra à d'autres occasions si besoin. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission Les Souris ne mordent pas pour poser des questions ou pour apporter des compléments si je me serais trompé ou omis certains points importants dans la discussion. Avant de continuer, un autre petit morceau de musique, Ronan Luce, Les Voisines, en CFM.
Dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. Invité au grand bal de tes slips en coton, de ma fenêtre en concurrence déloyale de ton chauffage central. Une pluie étanche interrompt ma transe, puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade. Une maison de retraite construite devant ma fenêtre, sur un fil par centaines sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
De retour dans les souris ne mordent pas, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies avec la cyberbase de la MJC de Rodez. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Faut bien que ça arrive, hein. On peut pas rester ensemble toute la journée. Un petit récap de tout ce qu'on a vu pour ceux qui étaient pas là au début de l'émission. Donc une triste nouvelle qui nous est arrivée la semaine dernière. Steve Jobs nous a quittés. Donc Steve Jobs, le patron, l'ex-patron d'Apple d'ailleurs, puisqu'il avait démissionné cet été. Ensuite, le filtrage Internet et Adopi. Donc voilà, il faut défendre la liberté d'Internet et faire attention à ce que les gouvernements voudraient pour Internet. Hein. On l'a vu récemment en Italie. Avec un problème sur la liberté d'internet, donc voilà, il faut défendre la liberté d'internet. Le rachat de Microsoft par Yahoo, donc après un premier échec en 2008, Microsoft remet ça. Hein, décidément, il ennuie vraiment sur Yahoo, donc à suivre. Flickr qui annonce au-delà des 6 milliards de photos qui stockent 200 millions de photos en licence libre. L'iPhone 4S, voilà, est la grosse déception de tous les fans d'Apple. Donc, ça n'a pas été une très bonne semaine pour les fans d'Apple, hein, puisque après la fausse sortie de l'iPhone 5, qui s'est transformé finalement en 4S, et la mort de Steve Jobs, voilà. Heureusement que je ne suis pas fan d'Apple, parce que j'aurais vraiment passé une mauvaise semaine. Et pour continuer, donc rapidement, l'anonymat dans les cybercafés. Donc un député, Jean-Louis Christ, qui essaye de s'attaquer à l'anonymat dans les cybercafés. Donc toujours, encore une fois, il faut faire attention à la liberté de la presse, à la liberté d'Internet, pardon. Parce que bientôt, on va devoir aller sur Internet avec une carte à puce et que tout le monde pourra savoir encore plus qu'aujourd'hui tous les sites qu'on parcourt. Et donc, ça peut vite être dangereux. Et une bonne nouvelle quand même dans tout ça, les sciences numériques rentrent au lycée. Donc voilà, si vous êtes lycéen ou futur lycéen, sachez qu'à partir de septembre 2012, vous pourrez prendre une option sciences numériques au lycée qui peut vous préparer pour l'avenir. Et ensuite l'open data, donc voilà, comme c'était un peu une émission sur la liberté, voilà, nous avons parlé des licences libres et des données libres de l'administration. Donc je le répète, hein, n'hésitez pas à écrire à vos élus pour leur demander de libérer toutes les informations qu'ils détiennent et qui sont payées par vos impôts et qui pourraient servir, hein, puisqu'on a vu en début d'émission que les smartphones avaient triplé en 5 ans. Eh bien, qui dit smartphone dit application sur les smartphones, et qui dit application sur les smartphones dit besoin de données. On parlait de la hauteur des trottoirs qui permettrait d'avoir des applications pour les personnes en fauteuil roulant, de savoir quel est le meilleur trajet à prendre, ou alors la liste des prénoms de l'état civil pour permettre de choisir son prénom, enfin son prénom, c'est trop tard pour le sien, mais le prénom de son enfant. Voilà, donc savoir quels sont les prénoms les plus utilisés, les moins utilisés, les prénoms qui ont disparu, les prénoms qui ont apparu, ça peut aussi donner des idées parce que quand on attend un enfant, hein, le choix du prénom est pas forcément évident. Voilà, donc c'était les souris ne mordent pas en CFM. Donc c'est tout pour cette semaine. Hein. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission et l'actualité, hein, en espérant qu'elle soit un peu plus joyeuse que cette semaine. Donc c'était Alexis en CFM. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Et si l'on modifiait le thème, dis-moi.